C'est bon.
Allez, c'est parti.
Bégaye-toi, bégaye-moi.
Bégaye-toi, bégaye-moi.
Bégaye-toi, bégaye-moi.
Bienvenue dans le podcast de l'association Parole Bégaiement qui vous fait entendre la voix de personnes qui bégaient et bredouillent.
Il et elle vous invitent dans leur univers et vous partagent leurs histoires sans filtre. Bonne écoute.
Épisode 4.
Dans cet épisode, écoutez David.
Qui nous montre qu'il n'y a pas d'âge pour s'occuper de son bégaiement.
Donc bonjour, bienvenue sur le podcast Bégaye-toi, bégaye-moi. Je me présente, je suis David, je suis pharmacien, j'ai 45 ans, j'habite à Bourges. Je bégaye depuis toujours et je suis accompagné de Françoise.
Françoise Palicot, orthophoniste, qui a reçu David il y a quelques mois. De cela quand vous avez franchi la porte du cabinet. Et je suis aussi déléguée de l'association Parole Bégaiement.
Une question que je me pose et à laquelle je n'aurai peut-être pas de réponse, c'est est-ce que c'est vraiment physiologique ou est-ce que c'est lié à une enfance compliquée ? Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je bégaye depuis aussi longtemps que j'ai des souvenirs. Même si ça ne s'entend pas forcément, hein, je n'ai pas un bégaiement très prononcé, ça... Pour moi, ça intervient plus par blocage incontrôlé qui peuvent arriver à n'importe quel moment. Mmh. Ça m'arrive moins et c'est quelque chose que je commence à accepter. Voilà. En fait, ça fait bien... Donc, j'ai une enfance compliquée, je n'irai pas dessus, mais juste j'ai une enfance compliquée. Et du coup, ça fait une vingtaine d'années que je suis un petit peu en... pas en quête de moi-même, mais j'essaie de recoller des morceaux, j'essaie de me débrouiller avec mon héritage, mon histoire. Et donc, le bégaiement en fait partie, il y a plein d'autres choses, mais ça s'en fait partie. Et puis, ça devenait... j'en étais arrivé à un point où je contrôlais ce que j'allais dire pour parler. Et ça n'a pas toujours été le cas. Donc là, c'était arrivé à ce point-là. Et à un moment, il y a quelques années, j'ai complètement bloqué pendant une lecture commune avec le groupe de théâtre, que j'ai très très mal vécu. Même si je suis dans un groupe de théâtre que je connais très bien, on est ensemble depuis quasiment 10 ans, on est vraiment bienveillants les uns avec les autres. Mais moi, ça m'a vraiment marqué et je me suis dit, non, je ne veux plus connaître ça et je ne veux surtout pas être bloqué sur scène. Donc, je vais aller voir quelqu'un pour arrêter de bégayer. Alors après, j'ai compris que ça, c'était pas possible. C'est vrai que vous voyez, moi, une des grandes craintes que j'avais aussi au théâtre, c'était de tomber sur quelqu'un qui bégaye.
Ah oui ?
Ah oui, l'effet miroir, c'est horrible. J'aurais eu beaucoup de mal s'il y avait eu un bégue dans le groupe en ouais. plus de moi, quoi.
Alors, même si cette personne en parlait...
C'est jamais arrivé.
Oui.
Mais ouais. ce serait arrivé avant que je commence à vous voir.
Oui.
Ça aurait été compliqué.
Et vous pensez que maintenant, vous pourriez
Parce que ça me renvoie, c'est comme si tous les phares étaient allumés sur moi.
Ouais.
Oh. Ouais, ça a été compliqué.
Ouais.
Je ne sais pas si ça fait ça à tout le monde, mais...
Qu'est-ce que vous aviez développé comme stratégie, justement, pour masquer, pour cacher votre bégaiement ?
La première qui me vient à l'esprit, c'est que je disais les phrases avant dans ma tête.
Mmh.
Pour qu'il y ait moins d'accidents aux sorties. J'ai jamais eu un bégaiement non plus. J'avais pas un bégaiement très très fort non plus. Je butais pas à chaque mot, à chaque phrase, c'était pas la question. Hein. Mmh. Mais j'étais quand même arrivé à un point où je contrôlais ce que j'allais dire.
Mmh.
J'étais dans le contrôle de ce que j'allais dire, ça c'est le principal point. Après le reste, est-ce que j'avais des techniques vraiment pour cacher ? Je changeais pas un mot par un autre.
Est-ce que vous évitiez des situations ?
Non.
Pas vraiment ?
Non. Puis s'il faut prendre la parole en public, j'ai jamais eu aucun problème avec ça.
Oui.
Je bégayais pas forcément en plus. Non. C'est juste que... c'était plus ça. Peur de l'accident, donc, pour éviter l'accident. On répète dans sa tête ce qu'on va dire. Bon, bah, ça, il faut éviter.
Donc, une perte quand même de spontanéité, malgré tout.
Oui.
Ouais. Et puis, peut-être une espèce de temps...
Tiens, bah, par exemple, pour les blagues. Mm. Pour les blagues, c'est très compliqué de raconter des blagues quand on est bègue. Parce que on y met du rythme, on y met de l'émotion, on pense déjà à la chute, donc on rigole à moitié et tout ça. Mmh. Pour un bègue, raconter des blagues, c'est très compliqué. Mmh. Et moi, souvent, je racontais pas les blagues parce que j'avais peur de bloquer en cours de route. Mmh. Donc je m'auto-censurais. Voilà.
Quand vous avez fait du théâtre au départ, initialement, vous avez commencé le théâtre avec cette idée que le bégaiement était là aussi.
Ah oui.
Est-ce que vous aviez l'impression, est-ce que c'était une démarche un petit peu pour vous dépasser, pour chercher...
C'était pas lié au bégaiement. Le théâtre, c'est vraiment le goût du jeu et le goût de la lecture. C'est vraiment un jeu, voilà. Si je m'amuse pas, je fais pas de théâtre.
Et oui. C'est d'ailleurs plutôt basé sur de l'improvisation.
C'est se mettre un petit peu en danger aussi. En fait, il faut accepter d'être ridicule au théâtre. Le théâtre, vous êtes obligé de prendre du recul sur vous, de toute façon. Vous ne pouvez pas en faire autrement si vous prenez au sérieux. Enfin, pour moi, à mon niveau en tout cas, moi je ne suis pas professionnel. Donc, on est obligé de lâcher, et tant pis si on est ridicule, si on n'est pas bon, si... C'est comme le chant, quoi. Moi, ma prochaine étape, c'est le chant. J'aurais pas pu commencer le chant tout de suite, probablement sans faire du théâtre. Et je savais qu'il fallait que je passe par l'orthophoniste avant de faire du chant. Mais je l'ai su dès le départ et je sais que la prochaine étape, c'est le chant.
David, qu'est-ce qui vous a amené à franchir le pas du cabinet? Un jour, vous êtes venu, vous avez appelé.
En fait, j'y pensais depuis plusieurs années. J'ai toujours bégayé, mais ça a été plus ou moins marqué selon les périodes de ma vie. Et puis là, je suis arrivé à un moment où ça prenait trop de place dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi. Donc c'était l'aboutissement d'une réflexion qui datait depuis plusieurs années. Donc après, moi, je fais confiance au destin et vous êtes la première personne que j'ai appelée et voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis, c'était parti. Je pense que ceux qui bégayent vont me comprendre, c'est que pour moi, c'était ce qui me définissait en premier, même si ça ne se voyait pas forcément par les autres. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris en venant, quasiment au début, dans les premières séances. C'est-à-dire que moi, l'idée que je me faisais de mon bégaiement était énormissime, c'est-à-dire que ça me définissait en premier, presque après mon prénom, alors que, et du coup c'était un vrai combat quotidien pour contrôler ça, pour essayer de vivre avec ça, parce que je pensais que c'était une immense pancarte qui était devant moi avec toutes les lumières qui clignotaient, attention je bégayais, enfin bref, voilà. Alors qu'en fait je me suis rendu compte que non, c'était pas forcément vécu comme ça par les autres. Donc ça m'a permis de vraiment prendre du recul sur mon ressenti par rapport à la réalité. Et pour moi, c'est vraiment un message important que j'ai compris et que je veux faire passer à ceux qui écouteront ça, c'est qu'il peut y avoir une énorme différence entre notre propre ressenti, vraiment de ce qu'est le bégaiement pour nous, et l'image qu'on renvoie aux autres qui peut être complètement différente.
Alors justement, on évoquait tout à l'heure cette idée du fait que à partir du moment où vous avez fait cette démarche de faire quelque chose par rapport à votre bégaiement et de plus subir d'une certaine façon, en tout cas de changer la lutte et de ne plus combattre à ce point comme vous l'avez fait pendant longtemps, on a l'impression que vous avez... Moi, j'ai eu l'impression, tout au cours du travail qu'on a fait ensemble, que vous ouvriez un petit peu à chaque fois une fenêtre. Un jour, vous pouviez parler du bégaiement. Un jour, vous disiez « Ah, ça a changé mon rapport à la respiration ». Un jour, vous disiez « Il y a un poids qui a disparu », etc. Est-ce que vous pouvez revisiter un petit peu ce parcours de fenêtres que vous avez ouvertes les unes après les autres?
C'est-à-dire que moi, c'est un cheminement qui, comme je vous l'ai dit, ça fait au moins 20 ans. Donc, en fait, à chaque fois que je venais vous voir, on se voyait à peu près toutes les 3 semaines. Ça fait 1 an et demi. À chaque fois, la première séance, quand je suis venu vous voir, j'avais déjà un cheminement qui était fait. Et donc forcément, ça m'a ouvert rapidement des fenêtres ou des portes, mais sur des choses que j'avais déjà pas forcément conceptualisé ou intellectualisé, mais je partais pas de zéro. Donc, c'est peut-être pour ça que ça a été assez rapide. Pour moi, vraiment, l'élément marquant par rapport à cette montagne, c'est je suis sorti un jour de chez vous, j'ai un ami qui travaille à côté de chez vous, qui tient un bureau de tabac, qui peut être assez méchant il est pas méchant, mais il peut être assez blessant.
Un peu caustique.
Oui, même très caustique. Et c'est la première personne que je suis allé voir pour avouer mon bégaiement, ce dont je n'avais jamais parlé à personne, alors que je connais des tas de gens, ne serait-ce qu'à Bourges, avec qui j'aurais été bien plus en confiance pour le faire.
Et vous dites avouer le bégaiement.
Ah oui.
À l'époque, vous l'avez vécu comme ça.
Ah oui, oui, oui.
Et maintenant.
Mais de toute façon, ça fait peu de temps que j'accepte que je peux dire à quelqu'un que je bégaye.
Mm-hmm.
Ça fait très peu de temps. Hein. Avant de venir vous voir, c'était impossible. Parce que pour moi, c'était honteux.
Oui. Et vous m'avez parlé, ça a été un moment très marquant, en fait, quand vous êtes revenu en disant que vous aviez senti un immense soulagement.
Alors, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que cette personne-là que je suis allé voir, j'étais persuadé qu'elle savait que je bégayais. Mais vraiment convaincu, mais pour moi, ça faisait aucun doute. Donc, je vais le voir, je lui dis, ben voilà, je vois une orthophoniste à côté. Ah bon, ben, pourquoi tu vois une orthophoniste? Ben, je dis, ben quand même, tu sais bien. Donc là, j'ai pensé qu'il se foutait de moi. Mais je vois qu'il est sérieux, je dis, bah en fait, je bégaye. Enfin, tu me forces à le dire, donc je vais le dire, mais je bégaye. Voilà, t'es content. Il dit, ah non, bah, je sais pas, j'avais jamais vu. Hop. Bah, je demanderai à. Bon, ouais, parce qu'on fait des parties tarot ensemble, à l'autre personne et tout, si, mais moi, non, non. Et là, ça m'a. Mais la montagne, elle s'est écroulée d'un coup.
Eh oui.
D'un coup.
Ouais.
Je l'aurais pas vécu, je l'aurais pas cru. Mais vraiment, hein, je ne l'aurais pas cru. Et j'ai vraiment, j'ai pensé qu'il se foutait de moi, mais j'ai bien vu que non. Mmh. Mais c'est une montagne qui s'est effondrée d'un coup. Donc là, effectivement, j'ai vraiment mis une fois que j'ai digéré l'information et les émotions qui allaient avec, j'ai pu mettre du recul entre l'image que je me faisais moi du bégaiement et les autres.
Mmh.
Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre pour comprendre. Sinon, on peut pas imaginer. Enfin, vraiment, il y a des gens qui bégayent. Enfin, pour moi, le bégaiement, ça, c'est encore autre chose que j'ai appris avec vous. Pour moi, le bégaiement, c'est le blocage. Et en fait, vous m'avez dit non. Pour les gens, le bégaiement, c'est pas le blocage, c'est la répétition de Ok. Mais pour moi, c'était vraiment le blocage.
Mmh. Et c'est ce que vous viviez aussi par moment.
Bah, moi, c'est ce que je veux surtout pas qu'il arrive, le blocage.
Ouais.
Le je m'en fous un peu. Mais. Mais effectivement, c'est le peu qui ressort chez les gens. Du coup, bah, voilà, moi, mon idée du bégaiement était propre à moi, donc elle n'était pas forcément juste par rapport à ce que pensent les gens en général. Mmh. Et mon idée propre du bégaiement était totalement fausse par rapport à ce que les gens pensent de moi. Donc ça a été un énorme soulagement. Et puis, je ne vais pas dire une renaissance, mais en tout cas, ça m'a ouvert les chakras, quoi.
Mmh.
Alors après. Après, j'ai digéré l'information. Je continue à bégayer. Ça ne m'empêche pas de bloquer de temps en temps. Mais ça, c'est pas grave, en fait. De toute façon, ça fait. Enfin, ça fait partie de moi, quoi. J'ai plus rien, c'est comme ça. Hein.
Et vous me disiez, il n'y a pas si longtemps, maintenant, je pense à mon bégaiement uniquement quand je viens vous voir.
Oui, alors, c'est un peu exagéré. J'ai un petit peu. C'est quand même très présent, mais.
Oui, j'imagine.
Mais. Parce que ça me définit quand même, encore. Même si j'ai mis du recul là-dessus. Quand on est bègue, on est bègue. Mais.
Ce qui a changé, c'est votre façon de vivre, en fait.
Vous connaissez l'expression on a toute la vie pour apprendre à s'accepter. Bah, c'est vraiment ça, quoi. Voilà, il faut apprendre à s'accepter, accepter sa voix. Je ne supportais pas ma voix. Là, bizarrement, cette année, on va faire une comédie musicale comme de par exprès. Donc, voilà.
Oui, vous me disiez que vous alliez chanter, vous chantez.
Ouais.
Donc, vous explorez un petit peu votre voix.
Oui.
Et justement, ce que vous avez pu, là où vous avez avancé aussi, c'est que vous êtes autorisé à dire, bon, ben, j'aime pas ma voix, ben, je vais faire quelque chose.
Là, j'ai pas le choix. C'est dans le cadre du théâtre. Donc, voilà.
Oui.
Mais... Mais oui, je déteste ma voix. Enfin, moi, maintenant, mais les premières fois où vous m'avez écouté ma voix, j'étais très mal à l'aise.
Oui.
Très mal à l'aise.
Oui. Alors, quand on a fait des enregistrements et que vous vous écoutiez, ce qui est quand même le lot de la majorité des gens, mais pour vous, d'autant plus, c'était sensible. Ouais. Et est-ce que vous avez l'impression que ce cheminement vous a amené à faire d'autres choses qui débouchent? Parce que, par exemple, vous me disiez que ça vous a donné envie de prendre des cours de chant, et comme vous êtes quand même plutôt engagé.
Les cours de chant, c'était le chant, ça date de longtemps aussi.
Oui, vous aviez envie de faire des chants aussi. Ouais.
Mais c'est par étapes, on ne peut pas tout faire d'un coup. Mm-hmm. Et je voulais dire quelque chose, mais ça m'a échappé. Bon, tant pis, c'est pas grave, ça reviendra. Le chant, ça va... C'est la prochaine étape.
Bégaye-toi, bégaye-moi.
Qu'est-ce qui a changé entre le moment où vous vous définissiez complètement comme une personne qui bégaye et maintenant vous dites, bon ben voilà, je bégaye, mais quel est le rapport au bégaiement qui a changé?
C'est le sentiment de honte.
Qui a changé?
Oui. Mmh. C'est pas la culpabilité, c'est vraiment la honte, l'impression d'être... C'est pas une maladie, c'est vraiment un sentiment de... C'est même pas de l'infériorité, c'est d'abord c'est une auto-censure. On se censure tout seul. Et ça vient petit à petit, on se censure de plus en plus. Et c'est un mal-être... pas vraiment définissable, parce que c'est pas une maladie, c'est pas on va très bien, on est en bonne santé, il y a pas de souci, on peut le cacher, le bégaiement, donc ça se voit plus ou moins, voire pas du tout, mais c'est toujours là, c'est traînant, c'est nous on vit ça comme une honte clairement.
Et là maintenant,
bon, maintenant je dis pas que je serais fan à l'idée, mais bon, voilà.
Alors qu'est-ce que vous auriez envie de dire à quelqu'un qui bégaye?
Alors, ça dépend où il en est dans son cheminement. Mais, je l'ai déjà dit, dédramatiser la situation. Mais bon, ça dépend ce qu'on est capable de faire à ce moment-là, si on n'est pas tous au même niveau de développement personnel. Mais il faut du courage pour avouer à quelqu'un. Alors, moi, la première chose que je dirais à cette personne-là, c'est déjà au moins de commencer à consulter pour accepter l'idée qu'effectivement je bégaye et de ne pas le cacher. Ça dépend si le bégaiement est ouvert ou fermé. Si le bégaiement est ouvert, à mon avis, il n'y a pas trop de soucis, mais s'il est fermé et mal vécu, déjà peut-être de voir quelqu'un, de commencer à consulter, mais surtout de prendre quelqu'un de confiance ou un inconnu, je ne sais pas ce qui est le plus facile, et de le dire.
D'en parler.
Ouais. Et ça, c'est compliqué. Ouais. C'est vraiment compliqué. Pour moi, c'est la première des choses à faire, c'est de le dire, parce qu'en le disant à quelqu'un, encore une fois, de confiance ou pas, même un inconnu, peu importe, mais le fait de le dire, ça va vous libérer d'un poids énorme.
Et vous vous rappelez, ça libère aussi la personne en face. D'une certaine façon.
Oui, mais ça, après, c'est dans l'échange.
Ouais.
Donc ça, c'est
dans l'échange.
Ça, c'est encore autre chose. Oui.
Dans l'échange.
Mais dans l'échange, j'ai fait... Alors, bon... après c'est plus technique, mais quelqu'un qui bégaye va avoir tendance à être plus rigide et à détourner le regard ou de façon totalement inconsciente, et ça c'est vrai que nous on n'en a pas conscience quand on bégaye, mais on met l'autre très mal à l'aise. Bon, ça c'est une chose dont on n'a pas forcément conscience. Effectivement, en évitant de détourner le regard, et puis, mais bon, c'est pas évident à faire non plus, parce que c'est quand même très inconscient, puis c'est appris, c'est acquis depuis des années. Effectivement, on met l'autre plus en confiance, mais ça revient, c'est le même processus que de dire que l'on bégaye. C'est la même chose, en fait. C'est plus simple de dire que l'on bégaye, parce que tout le reste va suivre. Mais encore une fois, il faut oser le faire. Et si vous n'y arrivez pas, eh ben, c'est pas grave, peut-être que dans 5 ans, vous y arriverez. Et il faut être doux avec soi-même. Si vous êtes pas, si vous êtes dur avec vous-même, ça ne marchera pas. Si vous êtes... pour accepter d'être soigné, aidé, peu importe, il faut accepter de l'être. Et pour ça, il faut avoir de la bienveillance envers soi-même. On l'a plus ou moins. Donc voilà. Il faut commencer par là, mais on n'est pas tous au même niveau.
Tout à fait. Il faut quand même faire du chemin pour ça.
C'est ça.
Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui ne connaît rien au bégaiement?
Il y a des gens qui vont avoir tendance à se moquer. Donc, faut éviter de se moquer, c'est sûr. Mais bon. Alors, ça, c'est très blessant. Ça fait vraiment très, très mal, les moqueries. Même si ce n'est pas forcément fait méchamment, mais ça blesse énormément. Et on s'en souvient très, très longtemps après, vous pouvez me croire. Voilà. Sinon, je ne sais pas, moi, quoi dire.
À des parents, par exemple, dont l'enfant va bégayer.
Alors, moi, si j'avais un enfant qui bégaye... Alors, je dirais pas la même chose aujourd'hui qu'il y a 2 ans en arrière. Il y a 2 ans en arrière, j'aurais été beaucoup plus... j'aurais pris ça de façon beaucoup plus grave.
Oui.
Parce que je pense que quelqu'un qui ne sait pas, et même si... Même peut-être d'autant plus, même si on bégaye, on pense que c'est même encore plus grave parce qu'on a l'impression que pour nous, c'est une montagne et que son enfant va vivre la même chose. Oui, c'est ça. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, ou même pour un bègue qui... Je pense que ça peut aller aussi pour un parent bègue qu'un enfant bègue. C'est de ne pas dramatiser auprès de son enfant et de ne pas braquer son enfant et de ne pas pointer le problème du bégaiement sur son enfant. Mais ça, c'est compliqué à faire si on n'a pas eu des clés pour ça.
Oui.
Moi, si j'avais vraiment un premier conseil à donner à un parent, ce serait ça. Et voilà, après...
De ne pas trop se focaliser sur la forme de la parole de son enfant.
La dernière chose que j'ai apprise avec vous et qui est très importante... C'est que on bégaye quand on est dans le combat. Et plus on est dans le combat, et plus on bégaye. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout intuitif. Pas du tout intuitif. Et effectivement, les enfants vont développer le bégaiement parce qu'ils vont être en combat pour l'éviter, parce que les parents, parce que les copains à l'école se foutent d'eux, parce que les parents mettent la pression pour ne pas bégayer, parce que... Voilà, donc la première action, c'est vrai que c'est ça, c'est de combattre. Et en fait, il ne faut pas le combattre. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut rien faire pour atténuer les choses. Ou alors après, c'est un bégaiement ouvert, assumé, il n'y a aucun problème. Pour ceux qui ont du mal avec les termes bégaiement ouvert, vraiment écoutez Roland Courbis. Vous allez comprendre, c'est quelqu'un qui bégaye tout le temps, mais il s'en fout. Donc, bégaiement ouvert... La personne s'assume totalement. Je ne suis même pas sûr qu'elle ait conscience qu'elle bégaye. Il n'y a aucun problème. Bégaiement fermé, moi j'étais dans ce cas-là. On essaye de ne pas bégayer et on essaye que ça ne se voit pas. Donc c'est un bégaiement masqué. Voilà, que ce soit bien clair. Et moi j'étais dans ce cas-là, donc je parle de mon expérience de bégaiement fermé. Un autre conseil que je donnerais à quelqu'un qui bégaye, c'est d'aller chanter. De prendre des cours de chant. C'est ce que je vais faire.
Pourquoi?
Là, mais je pense qu'on peut même commencer par ça.
Il y a des thérapies qui passent par le chant, des thérapies du bégaiement qui passent vraiment par le chant, selon les orientations des orthophonistes. Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait penser que le chant est très thérapeutique pour le bégaiement?
Il est libérateur. Je pense que le chant, ça libère. Donc, ça libère la personne qui ne respire pas, parce que si elle veut chanter, il va falloir qu'elle respire. Là, pour le coup, voilà, sinon ça ne passera pas. Ça libère de tout, ça... Ça libère des emmerdes, ça... C'est bien le chant.
Alors on dit aussi
Et puis
que...
en plus, on apprend à se connaître.
Avec le chant?
Ouais, je pense.
Comment vous pensez qu'on apprend à se connaître avec le chant?
Je sais pas, parce que j'en fais pas encore, mais... Alors peut-être que je fantasme un peu, Mais je pense que je vais apprendre des tas de choses sur moi.
Oui, probablement, bien sûr. Est-ce que c'est pas aussi un peu ce qu'on vit au théâtre?
Oui, mais c'est pas la même chose.
Ouais.
Là, le chant, c'est... moi, je disais souvent... parce que je considère que j'ai aucune oreille et que j'ai pas de voix. Ce qui est un peu fou, en fait. Je m'en rends compte. Mais bon.
Vous avez fait des progrès.
C'était l'image que j'avais de moi. Et je disais toujours, mais moi, je préfère me retrouver nu sur scène que chanter. Ah, mais chanter, non, ouais, quoi. Jamais. Jamais. Seul, ah, mais jamais. Oh, quel... Ah non, j'aurais... Et en fait... J'en suis pas là, hein. Mais je commence à relativiser, à me dire, ouais, mais quand même, à poil, peut-être que chanter, ce serait pas mal. Mais c'était à ce niveau-là. Et je pense qu'il y a plein de gens qui répondraient comme moi. Mm-hmm. C'est-à-dire que le chant, vous vous mettez à poil. Mm-hmm. Mais vraiment au niveau émotionnel, quoi, si vous voulez chanter. Le théâtre, c'est pareil, vous pouvez pas jouer à moitié. Mm-hmm. Mais c'est moins engageant. Le chant, c'est vraiment, vous devez sortir vos tripes.
Est-ce que vous voyez des choses que vous pourriez dire encore ?
Ben moi, j'ai parlé de mon expérience, donc bon, voilà, parce qu'à vous, hein, c'est une partie du bégaiement. C'est une partie du bégaiement. Je suis content de vous avoir rencontré, parce que vous m'avez beaucoup aidé.
Moi aussi, c'est très réciproque.
Vous m'avez beaucoup aidé. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, ce qui comptait dans l'expérience que j'ai vécue. Si je peux aider des gens qui sont un peu dans mon cas, tant mieux, voilà. De toute façon, c'est le but du podcast.
Voilà, ça sera sûrement le cas. Et curieusement, c'est très important d'avoir la parole d'un adulte, notamment par rapport aux parents qui s'inquiètent du devenir de leur enfant qui bégaye.
Alors juste, pour les enfants qui bégayent et les parents, c'est pas très grave, hein. Sharon Stone a bégayé. Louis Jouvet, le plus grand acteur de théâtre quasiment de l'histoire française, bégayait, il pouvait pas aligner deux mots. Joe Biden bégaye, enfin il bégayait. Mm-hmm. Bon, il y a quand même quelques carrières qui s'ouvrent, hein, pour les bégayer, pour ceux qui bégayent, c'est pas très grave. Julia Roberts bégaye, enfin bref.
Ouais. Laurent Courbis. Roland Courbis,
mais vraiment écoutez-le, c'est pour comprendre le bégaiement ouvert. Voilà.
Vous savez que c'est vous
et
qui
si je l'avais devant moi un jour, je lui demanderais. Mais est-ce que vous bégayez ou pas ? Et j'aimerais bien voir sa réponse. Ça me... Ouais. Mais tous les fans de foot, ils savent de quoi je parle.
Vous me l'avez fait découvrir, hein. Une personne sur 100 bégaye. Donc forcément, on les retrouve. Vraiment, je vous remercie infiniment d'avoir accepté aussi spontanément mon invitation à faire ce podcast dans le cadre de ce projet de l'association Parole Bégaiement. Ça m'a beaucoup touchée parce que vraiment vous vous êtes fait confiance et puis vous m'avez fait confiance aussi, mais vous vous êtes fait confiance et je pense que c'est vraiment extrêmement important. Voilà, donc je voulais vraiment vous remercier.
Ben, merci à vous aussi de m'avoir aidé, de m'avoir accompagné.
Bégaie-toi, bégaie-moi est un podcast de l'association Parole Bégaiement. Merci aux personnes qui ont accepté de se raconter. Oussamedine, Iliès, Gaspard, Faustine, Sylvana, Nouria, David, Sabrina, Tina et Malik.
Et également, merci aux autres viewers, Cécile, Christine, Sandra, Françoise, Marianne et Véronique. À la coordination, Christine Tournier et Malik Ndiaye. Prestation technique, Zaizaï Radio et Passerelle Images.